Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 9 octobre 2024. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah et bonjour tout le monde.
Qu'est-ce qui se passe dans le monde de la finance depuis la dernière semaine?
Depuis la dernière semaine, on a eu les chiffres d'emploi aux États-Unis vendredi dernier, chiffres d'emploi qui ont surpris largement à la hausse. On attendait environ là, 150 000 emplois, il s'en est créé 250 000 emplois. Alors, quel est l'effet d'une surprise à la hausse sur l'emploi? Ben, les anticipations de baisse de taux à venir de la Réserve fédérale sont moindres. Donc, on s'attend quand même à des baisses de taux dans les prochains mois, mais peut-être à un rythme moins rapide que c'était parti. Alors, l'effet a été de réajuster les taux d'intérêt sur les courbes des obligations 5 ans, 10 ans. Donc, les obligations du Trésor américain qui étaient à 3,78 à la fin du mois de septembre, ont terminé hier à 4,03. Ça a l'air de rien, mais une hausse de un quart de point sur les 10 ans, c'est quand même assez significatif pendant une semaine. Donc, on a eu un effet à la baisse sur la valeur des obligations. Alors, les investisseurs qui ont un portefeuille qui détient une plus grande partie d'obligations, cette portion-là du portefeuille a subi une légère baisse là, dans la dernière semaine en raison, entre autres, des hausses de taux, même si, on le répète, les banques centrales sont quand même dans un cycle de baisse de taux. C'est les anticipations des baisses futures qui sont moins rapides et moins prononcées. Ça l'a quand même eu pour effet. Alors, dans le passé, qu'on avait des bonnes nouvelles économiques comme ça, ça avait un impact négatif sur la bourse parce que les taux d'intérêt montaient. Ben là, c'est l'inverse. Donc, on a eu une hausse. Le Nasdaq, cette semaine, est en hausse de 1,5 %, tiré à la hausse par les titres en technologie. Donc, on est en train de tranquillement retrouver la corrélation négative entre les obligations et les actions. Typiquement, quand les actions vont bien, les obligations vont moins bien et vice-versa. Ça, c'était la corrélation là, historique. En 2022, cette corrélation-là s'est un peu brisée. Là, les deux classes d'actifs ont performé à la baisse en même temps. C'est un peu inhabituel. Donc là, ce qu'on voit cette semaine, c'est un marché qui semble en santé. Les obligations ont baissé un peu pendant que les actions ont quand même très bien fait. Donc, année à jour, on a des performances sur le Nasdaq en hausse de 21%, 20% sur le S&P 500 aux États-Unis, 15% sur le TSX, les trois indices. Le TSX était un petit peu plus modeste. Les secteurs des ressources, entre autres, hier, ont baissé quand même passablement. Le reste du marché a quand même bien fait. Donc, l'ensemble des bourses sont en santé et on surveille donc les taux d'intérêt. Est-ce que c'est une nouvelle fenêtre d'opportunité pour rallonger un petit peu des échéances, pour profiter? T'sais, on sait que les taux de 5%, ça n'existe plus. Les taux ont remonté un petit peu dernièrement. Est-ce que ça nous donne cette dernière opportunité de racheter des titres à revenu fixe avec des taux quand même très attrayants pour les prochaines années? Possiblement, on ne sait pas exactement, on ne peut pas prévoir là, ce que la bourse va faire, ce que les marchés financiers vont faire, mais ça nous permet là, pour les investisseurs plus prudents là, de bénéficier quand même de taux d'intérêt un petit peu plus élevés là, à court terme pour placer dans des placements sans risque.
Bien, merci beaucoup, Martin. On ne va pas parler d'obligations aujourd'hui spécifiquement, mais on va parler de fonds mutuels. Ouais. Donc, on va plonger dans ce sujet-là. La majorité des investisseurs en détiennent ou en ont détenu par le passé. C'est un produit qui est quand même encore populaire, mais qui demeure assez compliqué. Donc, si on creuse un peu puis on demande aux gens c'est quoi un fonds mutuel, on réalise assez rapidement qu'ils ne savent pas les détails. Donc, c'est important, je pense. On a déjà abordé le sujet, mais je pense que c'est important de rafraîchir la mémoire et de clarifier quelques détails qui peuvent parfois être méconnus des investisseurs. Donc, dans cet épisode, nous allons expliquer plus en profondeur ce qu'ils sont, les fonds mutuels, comment qu'ils fonctionnent et comment nous les sélectionnons. Ouais. Parce qu'en réalité, on a accès à tous les fonds mutuels, ce ne sont pas tous bons. Donc, Martin, peux-tu nous expliquer rapidement ce que c'est un fonds mutuel et comment il fonctionne?
Donc, un fonds mutuel ou un fonds commun de placement, là, ce sont deux termes un peu interchangeables. Essentiellement, on regroupe l'argent de plusieurs investisseurs dans un seul panier qui va être géré par un gestionnaire en fonction des objectifs de placement du fonds. Donc, on va, ça permet là, une diversification instantanée où on n'a pas besoin là, de choisir 25, 30, 40 compagnies. On a un gestionnaire qui va le faire pour nous. Et puis, tu sais, on pourrait avoir donc un petit montant modeste, mais géré avec tout le professionnalisme et la diversification qu'un gestionnaire professionnel peut nous offrir. Il va le faire, donc, on a dit, en fonction des objectifs de placement du fonds. Alors, par exemple, il peut y avoir différents objectifs, mais ça peut être la préservation du capital. Ça peut être de générer un revenu. Ça peut être de générer la croissance du capital à long terme. Ça peut être une combinaison de ces objectifs-là. Une des différences principales aussi des fonds communs de placement par rapport peut-être aux actions en bourse, les fonds communs de placement, ils sont calculés, la valeur de l'unité d'un fonds commun de placement est calculée une fois par jour, à la fermeture, la valeur de la fermeture des marchés. Donc, durant la nuit, là, le prix du fonds mutuel s'ajuste. Donc, quand vous regardez sur votre application VMD Conseil, la valeur de votre portefeuille, puis la bourse, ça monte aujourd'hui, ben vos fonds mutuels, ils montent pas encore. Là. Ils savent pas encore que ça a monté. Et le lendemain, vous allez voir que la valeur de vos fonds mutuels a changé là, durant la nuit. Donc, c'est calculé une fois par jour. Et quand on achète ou on vend un fonds, donc si il est 10 heures le matin puis je fais l'achat du fonds, en fait, je ne sais pas à quel prix je vais l'acheter parce que je vais l'acheter à la valeur à 4 heures ce soir. Que je ne connais pas encore. Et la même chose, donc quand je décide de vendre le fonds, ben je ne le vends pas au prix qui était hier, je le vends au prix qui va être plus tard à la fermeture des marchés et l'argent sera disponible. Donc, on est maintenant dans un règlement T+1. On a fait un podcast là-dessus, un balado, il y a quelques mois. Donc, l'argent, si je vends aujourd'hui, mercredi, l'argent, elle sera disponible jeudi. Mais la mécanique de transaction du fonds, là, donc dans vos comptes, si je vends le fonds aujourd'hui, mercredi, c'est juste vendredi que vous allez voir la transaction, mais en date de jeudi. Donc, il y a un délai de 2 jours de pitonnage là, à l'interne, de refléter ça dans les comptes des clients.
Puis quand on parle de gestionnaire, en réalité, c'est des équipes de gestionnaires. Hein? Ouais. C'est pas juste une personne, c'est chapeauté par une personne, mais ils ont accès à des armées d'analystes dans la compagnie de fonds et puis une méthodologie qu'ils vont souvent appliquer et réappliquer.
Du moins, les fonds qu'on préfère, généralement, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais oui, la majorité des fonds, effectivement, les familles de fonds ont des équipes d'analystes, ont des équipes de gestionnaires. C'est assez rare que c'est un one-man show. Je pense qu'aujourd'hui, là, en tout cas, moi, j'en connais pas de fond. Il y a un gestionnaire chef. Oui, il y a quelqu'un qui est ultimement responsable des décisions. Mais habituellement, c'est rarement une décision qui est prise seule. C'est prise en équipe à l'interne.
Exact. Quels sont les principaux types de fonds mutuels?
Oui, donc il y a plusieurs classes d'actifs différentes. Donc, il y a des fonds de marché monétaire. Donc, on parlait d'objectifs de préservation du capital. Donc, les fonds de marché monétaire, ce sont des fonds de nature à très court terme qui visent vraiment à protéger le capital. Typiquement, il y a peu ou pas de risque. Donc, même si en théorie, un fonds de marché monétaire n'est pas garanti, bon, historiquement, c'est des produits qui vraiment visent la préservation du capital. Donc, ils sont de nature là, à court terme. Revenus fixes, donc on va retrouver là, la grande catégorie des revenus fixes, donc tous les types d'obligations gouvernementales, municipales, provinciales, corporatives, rendements élevés, ainsi de suite. Donc, tout ça, ça rentre dans la catégorie du revenu fixe. Donc, il peut y avoir à l'intérieur d'une même catégorie comme revenu fixe, différents niveaux de risque. Donc, ils sont pas, tu sais, un fonds gouvernemental court terme va être plus prudent qu'un fonds d'obligation rendement élevé long terme. Donc, il peut y avoir quand même une différence au niveau du risque. On va retrouver ensuite des fonds d'action. Donc, fonds d'action qui vont principalement investir là, dans un portefeuille de titres de qualité. Puis là, j'ai sauté volontairement par-dessus un parce que entre les fonds de revenus fixes et les fonds d'action, on va retrouver les fonds équilibrés qui sont donc une combinaison où on va typiquement, là, par défaut, un fonds équilibré, c'est à peu près 60% en actions, 40% en revenus fixes. Donc ça, c'est assez traditionnellement la répartition d'actifs d'un fonds équilibré. Par contre, chacun des émetteurs, ils ont toutes sortes de répartitions qui vont tourner autour de ces ratios-là, un petit peu plus prudents, un petit peu plus dynamiques. Fonds internationaux, donc on peut avoir des fonds qui vont aller chercher là, des pays spécifiques ou des régions du globe spécifiques. Des fonds spécialisés, où là on va souvent retrouver des fonds qui investissent dans des secteurs particuliers, soins de santé, technologie. On peut avoir des fonds indiciels, donc les gens connaissent les fonds négociés en bourse, qui sont souvent des fonds indiciels, mais les fonds communs de placement, il y en a qui existent sous forme indicielle aussi. Donc, le fonds va simplement répliquer un indice connu, par exemple le S&P 500, là, dont on parle souvent. Et puis, il y a des fonds socialement responsables, où, là, donc ils vont regrouper un petit peu tout ça ensemble, mais non pas avec une vision d'une classe d'actifs spécifique, mais en fonction d'un but spécifique, là, d'être soit socialement responsable ou environnemental, par exemple.
Puis, peut-être je vais te poser une question qui n'est pas sur notre liste de questions, mais dont je sais que tu as la réponse. On peut avoir des fonds qui ont un gestionnaire et un sous-gestionnaire.
Oui. Ouais, c'est une super bonne question. Donc, on peut avoir une famille de fonds qui émet, là, tu sais, 10, 12 fonds différents, gérés par des équipes différentes. Puis, dans la catégorie X, là, tu sais, par exemple, le fonds d'action mondiale de telle compagnie de fonds mutuels, ils jugent, eux, à l'interne, qu'ils n'ont pas l'expertise nécessaire pour avoir le meilleur gestionnaire possible. Donc, ils vont aller mandater le gestionnaire d'une autre entreprise, donc un gestionnaire externe, qui n'est pas à l'emploi de la famille de fonds, mais qui a un contrat pour gérer l'argent de ce fonds-là. Donc, c'est pour nous, ce qui est important, c'est pas la famille de fonds, mais le gestionnaire du fonds, la personne qui prend les décisions ou l'équipe qui prend les décisions sur ce produit-là. Évidemment, la famille de fonds, on veut s'assurer que ce soit une famille qui est stable, qui est connue, qui est bien gérée, là, mais c'est l'important, vraiment, c'est l'équipe de gestion.
Exactement. Puis on va revenir sur nos critères de sélection après. Mais avant, je veux te poser la question, parce que je pense que c'est une question que les clients doivent se poser et qu'on explique souvent, mais qu'on oublie souvent.
Ouais.
Quelles sont les différentes structures de frais de fonds mutuels?
Donc, on va vraiment séparer le passé du présent puis les deux méthodes de rémunération là-dedans aussi. D'une part, là, chez Desjardins, chez Valeurs Mobilières Desjardins, depuis plusieurs années, les fonds avec frais de rachat, là, c'est plus offert chez nous. Okay? Donc, quand on achète un fonds, il n'y a pas de pénalité pour le revendre à l'intérieur des quelques prochaines années. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus du tout. Là, on a eu quelques cas où on a reçu des transferts, puis le client y avait acheté cette version de fonds-là à la compétition ailleurs dans une autre firme. Puis il y avait des frais de rachat, donc il faut quand même s'assurer de valider ça. Donc, on va parler, là, quand on parlait de rémunération, donc il y a les formules avec les commissions intégrées ou la rémunération intégrée aux frais de gestion et les versions à honoraires. Donc, les versions, là, souvent sont identifiées série A ou série B, où là, on va avoir un frais de gestion, puis là, on y va avec un exemple très large, là. Le frais de gestion du fonds va être, par exemple, de 2,25%. On ne le voit pas passer, mais c'est vous qui le payez pareil. Là, c'est prélevé directement à l'intérieur du fonds par la famille de fonds et ils vont reverser une rémunération qu'on appelle en franglais le trailer, donc la commission de suivi. Typiquement, c'est 1 %. Des fois, c'est un petit peu moins selon la catégorie d'actifs, là, mais utilisons bien souvent, c'est 1 %. Fait que la compagnie XY prélève 2,25 puis redonne à Desjardins 1 %, puis il garde 1,25 pour avoir géré le fonds. Et ça, on le voit pas passer, ça apparaît sur le rapport au 31 décembre dans les frais et rémunérations comme commission de suivi. C'est uniquement le 1 % qu'on voit. Par contre, on paye réellement 2,25. C'est dans l'aperçu de fonds. Donc, quand on fait l'achat d'un fonds, on vous parle de ces frais-là. On vous envoie l'aperçu du fonds au moment de faire juste avant de faire la transaction. Donc, les frais sont bien indiqués là-dessus. Depuis plusieurs années, on travaille beaucoup plus dans des versions à honoraires. Donc là, on vous charge, nous, un honoraire. Desjardins vous charge un honoraire de 1,25, peu importe, là, ça dépend des clients, mais autour de, appelons-le, 1 %. Et là, la version série F, donc la plupart du temps, c'est identifié comme série F des émetteurs de fonds, vont avoir un frais de gestion réduit parce que là, ils ne payent pas de rémunération. Donc, le même fonds qui coûtait 2,25, typiquement, va coûter 1 %. Ballpark. Là, on arrondit les chiffres un peu. Ce qui fait que le frais de gestion de la famille de fonds de 1 ou 1,25 % plus notre honoraire ça revient au même. Là. C'est pas ni plus cher ni moins cher, c'est à peu près pareil.
Puis pour, si vous avez une incompréhension à ce niveau-là, je pense qu'on est très transparent sur ce sujet-là. Mais pour les clients, s'ils ont des questions à propos de ça, c'est vraiment simple pour nous de démystifier votre situation individuelle.
Exact. Il y a aussi des versions série T, un petit peu moins connues des clients, mais les clients qui ont un besoin de revenus réguliers avec une certaine efficacité fiscale. Il y a certains fonds communs qui vont être structurés de façon à payer un revenu à tous les mois, fixe dans le temps, dont une grande partie de ce revenu-là va être considérée comme du retour de capital, donc un traitement fiscal plus avantageux. Et là, une série qui est à peu près pas utilisée chez VMD, mais qui existe là, quand même, série O, là où des fois, il y a certaines firmes qui, le fonds mutuel lui-même ne charge pas de frais. C'est la compagnie, c'est le conseiller qui va charger le 2,25 au complet et qui va payer la compagnie de fonds pour la gestion. On n'a pas vraiment ça là, chez nous, mais ça existe. Donc, quand on reçoit vos relevés, puis une des raisons, quand on a un nouveau client, puis on dit, tu sais, donne-moi ton relevé, on a besoin de voir ces détails-là. C'est important pour bien comprendre qu'est-ce que vous détenez, quelle est la structure de rémunération, c'est quoi vos vrais coûts pour être capable de vous faire une proposition qui fait du sens.
Bien, tu m'apprends quelque chose avec le sérieux. Je ne le savais pas, on n'en fait tellement pas.
Ça n'existe pas vraiment chez nous. On ne croise pas ça très souvent, mais ça existe.
Donc, finalement, est-ce qu'il existe un nombre presque illimité de fonds mutuels? En réalité, 24 000 quelque chose, c'est je pense. Peux-tu expliquer notre processus de sélection et comment nous évaluons la qualité de ces produits?
Donc, le fournisseur qu'on utilise, qui est quand même assez connu en général, là, Morningstar, donc qui est une entreprise qui fait de l'évaluation de produits. Morningstar, là, ils ne gèrent pas d'argent, ils ne vendent pas de produits, ils vendent un logiciel pour évaluer des produits financiers. Donc, Morningstar, ils ont un système d'étoiles. Donc, si vous avez déjà entendu parler des fonds 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, on fait référence ici à Morningstar, qui est une méthode pour évaluer la qualité des fonds et les rendements passés des fonds, right? Donc, les étoiles, là, c'est ce qui s'est passé dans le passé et c'est une mesure de performance ajustée au risque. Donc, il y a une notion aussi, c'est pas juste la performance brute, mais il y a une notion, quelle est la volatilité qu'on a dû tolérer pour obtenir cette performance-là. Pour obtenir des étoiles, ça prend un minimum de 3 ans d'existence. Alors, même si un gestionnaire est très, très connu, il lance un nouveau fonds, ben, il n'y a pas d'étoile avant 3 ans, et au bout de 3 ans, ben, il va recevoir sa première cote Morningstar. Donc, nous, quand on choisit des fonds pour offrir à nos clients, généralement, on veut que le fonds ait un minimum de 3 ans d'existence. On veut s'assurer de bien connaître le gestionnaire, d'avoir un minimum d'historique là, pour savoir comment ça a fonctionné.
Puis quand on dit bien connaître le gestionnaire, on veut connaître le style du gestionnaire. Puis c'est quoi son processus pour choisir les titres qu'il met en portefeuille?
Exact. Donc, d'où viennent nos idées? Ben, du logiciel, on peut simplement faire un search. Je cherche un fonds mondial, puis dire, OK, ben, montre-moi tous les fonds mondiaux. Montre-moi ceux qui ont un frais de gestion de moins de 2 points quelque chose, qui ont plus que 4 étoiles, ainsi de suite. On peut faire aller chercher, là, voir qu'est-ce qui performe bien. On a évidemment les entreprises de fonds communs, ben, ils nous sollicitent beaucoup pour qu'on offre leurs produits à nos clients. Alors, ils vont nous lancer leur meilleure idée, puis nous, ben, on va après ça mettre ça dans Morningstar pour comparer leur meilleure idée avec les produits qu'on utilise pour nos clients. Et nous, on va vraiment aussi, quand on analyse ces produits-là, on ne va pas juste s'arrêter simplement au nombre d'étoiles puis au rendement passé, mais on aime ça, nous, venir décortiquer comment ce rendement-là a été atteint. Puis souvent, quand on va aller analyser les rendements par année civile, on va se rendre compte parfois que, bon, le gestionnaire a une très bonne moyenne depuis 10 ans, mais il y a une année là, très exceptionnelle, puis on pense que c'est, mettons, hors norme, puis que c'est peu susceptible de se reproduire. Tu sais, j'ai en tête un fonds, là, en 2022, le marché fait moins 15, le fonds a fait plus 10. Tu sais, t'es 25% over, t'es positif pendant que tout le monde est négatif. C'est quoi les probabilités que la prochaine fois que le marché est à moins 15, que tu vas faire plus 10? D'après moi, c'est pas très élevé. Donc, on vient un peu handicaper cette performance-là pour dire, bon, ouais, OK, oui, ta moyenne est bonne, mais j'y mets un petit bémol sur cette moyenne-là.
Puis on regarde vraiment les performances après frais.
Exact. C'est tout ce qui compte. Comme investisseur, là, cette obsession des frais, elle est mal placée. Donc, les médias, les compagnies de courtage, les FNB ont fait un très bon travail de mettre beaucoup, beaucoup d'emphase sur les frais. Puis honnêtement, l'important, c'est quel est votre rendement net des frais, net des impôts. Puis ça, on ne va pas le répéter assez souvent, la taille du frais est effectivement un frein à la performance. Donc, plus on paye cher de frais, plus ça va être dur pour le gestionnaire de battre le marché. Mais l'important, ce n'est pas le frais qu'il nous charge, c'est quelle est la performance. Net des frais, net des impôts. Et si on paye un frais, puis on obtient en bout de ligne une performance meilleure que l'indice, on fait bien de payer un frais. Sinon, on devrait considérer congédier le gestionnaire et le remplacer. Évidemment, on va faire une analyse. Là. Donc, tous les gestionnaires peuvent avoir une mauvaise année. Là. L'objectif, ce n'est pas de battre le marché à chaque jour ou à chaque mois ou à chaque trimestre, c'est de battre le marché sur un cycle complet. Donc,
Puis la réalité, c'est qu'il faut, puis ça c'est où notre expertise en rentre un peu en compte, il faut faire l'analyse et comparer le fonds versus sa vraie catégorie. Exact. Donc, des fois, exemple, un fonds va être comparé à l'indice MSCI mondial, mais en réalité, il y a toute autre chose qui est détenue, différentes sortes de placements qui sont détenus dans le fonds, qui fait en sorte que peut-être la comparaison n'est pas adéquate.
Exact. Donc, il faut faire un ajustement manuel, si on veut, de la catégorie d'évaluation pour dire, OK, ouais, bon, je comprends que ça, tu es dans la grande catégorie des fonds d'obligation, mais en réalité, tu n'es pas dans la bonne catégorie, tu ressembles plus à un fonds équilibré. Donc, on va l'évaluer en fonction de ça.
Parfait. Bien, merci beaucoup, Martin. C'est notre passion. Et comme je dis à toutes les semaines, on pourrait en parler pour longtemps. Pour nos clients et partenaires, Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos questions ou objectifs financiers personnels. S'il vous plaît, communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.